Les nuits de France Culture.
L'aéroport de Roissy, dont la construction avait été décidée en 1964, a accueilli ses premiers voyageurs en mars 1974. Quelques semaines avant son inauguration, Michel Marek, qui en avait dirigé les travaux de construction, et Paul Andreu, qui en était l'architecte, étaient les invités de l'émission « Présence des arts » sur France Culture. Ils y décrivaient ce nouvel aéroport parisien en exposant à quels besoins il répondait, les atouts que présentait Roissy pour l'accueillir et comment il avait été conçu. Paul Andreu, notamment, exposait en détail les motifs de ses choix esthétiques et fonctionnels. Présence des arts, Paris construit, Roissy en France, une émission initialement diffusée en deux temps les 9 et 16 février 1974 sur France Culture.
Le 8 mars aura lieu l'inauguration officielle d'un nouvel aéroport, Roissy en France, l'aéroport Charles de Gaulle, qui est le troisième aéroport d'un complexe qu'on appelle Aéroport de Paris et qui comprend Orly, Le Bourget et Roissy. Nous avons la chance d'avoir, pour nous parler de Roissy, Michel Marek, qui est responsable de la direction des travaux, et Paul Andreu, qui est l'architecte en chef de Roissy. Michel Marek est ingénieur des ponts et chaussées. Il a travaillé pendant plusieurs années au Cambodge à une ligne de chemin de fer. Il a également travaillé une autoroute à Menton. Quant à Paul Andreu, il a travaillé d'abord avec Vicario à Orly et il a fait des études d'ingénieur avant de se lancer dans l'architecture. Voulez-vous nous expliquer comment vous avez travaillé à Orly, Paul Andreu, et comment vous avez été amené à travailler pour Roissy ?
D'abord, j'ai travaillé à Orly dans un poste qui était un poste analogue à celui que Marek occupe actuellement, mais à une toute petite échelle, puisque c'était la période de petits travaux à Orly après les grands travaux de l'aérogare sud. Pendant ce temps-là, j'ai fini les études que j'avais commencées aux Beaux-Arts, en même temps que je finissais mes études d'ingénieur. Et quand j'ai eu terminé mes études aux Beaux-Arts, j'ai commencé à faire ce que je considère comme mon vrai métier, c'est-à-dire celui d'architecte. Et à ce moment-là, j'ai changé des travaux, je suis passé dans un département d'architecture pour m'occuper du nouvel aéroport.
Bon, mais comment est-ce que vous avez décroché, si l'on peut dire, Roissy ?
Oh, si vous voulez, je ne l'ai pas décroché, j'ai eu de la chance, j'étais là, l'aéroport de Paris a ses propres architectes, ingénieurs, tout un bureau d'études et de travaux. J'étais là, j'avais un diplôme, j'avais peut-être un certain nombre d'idées aussi. Enfin, les gens m'ont fait confiance et j'ai eu la chance d'être là.
Bon, alors maintenant, il faut que nous expliquions ce qu'est Roissy. D'abord, vous allez pouvoir dire l'un et l'autre, pourquoi a-t-on eu besoin d'un troisième aéroport ? Michel Marek.
Le trafic des avions augmente très vite. Il double tous les 5 ans. Il le faisait de façon systématique ces dernières années et pratiquement depuis la guerre. Peut-être maintenant constatons un début de ralentissement que risque d'accentuer le coût du pétrole. Mais malgré ce ralentissement possible, on est devant une des activités de l'homme qui croît le plus vite. Donc s'il faut faire Roissy après Le Bourget, après Orly, c'est que ces aéroports sont devenus de capacité insuffisante. Il faut ouvrir Roissy cette année, à Pâques 74, le trafic nouveau qui va apparaître dans les années futures va essentiellement se diriger à Roissy. Orly continuera à croître assez lentement jusqu'à une capacité plus grande et un trafic quand même légèrement plus grand que ce qu'il a actuellement.
Bon, alors je crois qu'on a choisi Roissy parce qu'on avait la chance d'avoir 3000 hectares où il n'y avait pratiquement pas de population. Ça vous donnait tout de même beaucoup de liberté.
Oui, ça a surtout donné beaucoup de facilité au niveau de l'acquisition des terrains. Ça a donné, en dépit des inconvénients qu'il peut y avoir pour le bruit, si vous voulez, une situation qui est quand même globalement vivable, je n'entre pas dans les cas particuliers, pour l'implantation d'un tel aéroport. Si vous voulez, effectivement, au total, on avait une construction, une grande ferme sur le site de l'aéroport qu'on a démoli, le reste c'était des champs, c'était plus facile, et en plus c'était des grandes propriétés, ce qui a rendu l'expropriation plus facile. Et ça se trouvait à une vingtaine de kilomètres de Paris, ce qui est une espèce de performance pour les capitales, quoi. Si on regarde ce qui s'est passé dans les capitales étrangères, au Japon, à New York, à Londres, eh bien Paris a une position de ce point de vue-là très très privilégiée.
Est-ce que c'est un cas unique ? C'est un aéroport dont on envisage une croissance continue, c'est-à-dire qu'il n'y a que la première phase des travaux qui va être achevée, et après, ça ne sera terminé, je crois, qu'en 85.
Oui.
Est-ce que ça pose des problèmes particuliers de travailler dans ces conditions ?
Ça se rapproche d'une opération d'urbanisme plus générale, si vous voulez. Y a un certain nombre de grandes lignes qu'il faut fixer. Bon, la position des pistes, parce que ça commande beaucoup de choses, y compris d'ailleurs les relations de l'aéroport avec son environnement. Un grand zonage encore que, si vous voulez, le zonage absolu n'est pas de sens. Enfin, un grand zonage, là les gares de passagers, là plutôt le fret, là plutôt l'entretien. Et cela dit, alors dans cette espèce de canevas général, avec des limitations qu'on s'est imposées parce qu'il fallait bien avancer, on garde la possibilité d'évoluer, bien sûr, de changer de partie. Si vous voyez, on a commencé par faire des plans où il y avait 5 aérogares rigoureusement identiques. Ça, c'était une espèce de vue de l'esprit pour simplement montrer aux gens qu'on avait la place de traiter beaucoup de trafic. Mais la deuxième gare a une forme très différente de la première.
Bon, alors, Paul Andreu, je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu comment vous avez réparti les différents bâtiments, parce que je crois que vous avez tenu à ce que chacun exprime sa fonction et que cette fonction soit lisible à la fois pour le passager qui va s'en aller et pour celui qui arrive.
Oui, si vous voulez, il y a deux choses. Il y a ce que vous dites, c'est-à-dire que la fonction de chaque bâtiment soit lisible. Il y en a une deuxième, si vous voulez, qui est que les gens qui rentrent dans l'aéroport n'aillent pas très directement et uniquement vers un but déterminé, qui serait par exemple l'aérogare, mais au contraire parcourent l'ensemble de l'aéroport en ayant l'impression, si vous voulez, pour parler court, qu'ils sont bien dans un espace qui a au moins 2 dimensions, sinon 3, hein, et pas sur un espèce d'axe, des espèces de rails qui les mènent inéluctablement dans un bâtiment et pas dans un autre. Au fond, si vous voulez, disons qu'on a essayé d'éliminer un peu le complexe Versailles.
Bien.
Hein, pour parler
alors,
court.
Ces points de repère, quels sont-ils ? Alors, il y a le château d'eau.
Alors, si vous voulez, il y a le château d'eau qui, lui, se trouve finalement au confluent des deux routes, celle qui vient de Paris, écrire celle qui viendra de Lille, puisqu'on peut venir, non pas de Lille peut-être, mais enfin des environs du nord de la région parisienne. Il y a les deux débranchements de l'autoroute qui se croisent près du château d'eau, qui a là une espèce de fonction de signal, en même temps qu'il est bien placé pour sa fonction.
Il y a la tour de contrôle qui est
la
une
tour de
des
contrôle,
plus haute.
Alors, elle est un peu plus loin. Et elle est un peu plus haute, puisqu'elle fait 80 mètres au total.
Je crois qu'elle est particulièrement haute.
Elle est très très haute. Compte tenu de la taille, de l'étendue du terrain, on a été obligé, si l'on voulait voir toutes les extrémités de piste sous l'angle raisonnable, de la monter très très haut. L'œil de l'observateur doit être à quelque chose comme 70 mètres, et je crois que c'est la plus haute du monde ou d'Europe, enfin ça j'en sais rien, enfin elle est très haute.
Bon, et il y a une centrale thermoélectrique que vous avez exprimée comment au sol ?
Il y a au centre, juste au centre, cette centrale qui comprend 3 parties, si vous voulez, une partie thermique, une partie frigorifique, une partie électrique. Qui est de forme ronde, une espèce de fleur à trois pétales, chaque pétale pouvant grandir en fonction des besoins, indépendamment des autres. La forme ronde a des tas de justifications fonctionnelles. Elle a aussi une autre raison, qui est que, d'une manière générale, pour tous les bâtiments de Roissy, on voulait que, quel que soit le point de vue, ils aient à peu près la même silhouette. D'où ces formes de révolution. Et de manière, si vous voulez, à ce que ça soit davantage la position relative d'un bâtiment par rapport à un autre qui compte et qui donne la position qui donne aux gens leur position dans l'espace, qu'une espèce de perspective classique. Enfin, à la limite, la perception qu'on a voulu de l'espace voudrait dépasser cette perspective classique absolue pour quelque chose d'un peu plus compliqué, hein, ou du moins différent. Je ne sais pas, comme est par exemple la perspective chinoise par rapport à la perspective classique, quoi.
Oui. Et alors, nous continuons donc notre tour avant d'arriver au bâtiment central. Je crois, il y a un bâtiment qui ressemble un peu à l'UNESCO.
Ah, c'est ce bâtiment
triangulaire, oui.
C'est un hôtel. C'est un hôtel qui est construit par Jacques Borel, qui a 350 chambres tout de suite, qui sera étendu plus tard à 700 chambres, qui n'a pas été fait par nous d'ailleurs, mais par l'architecte.
Mais vous étiez d'accord sur...
Ah, on a bien sûr discuté avec l'architecte qui est Stenner, on a discuté et de la forme et des façades, etc., bien sûr.
Et puis ensuite, avant que nous arrivions toujours à ce bâtiment central, il y a un autre bâtiment qui est plus en forme de parallélépipède, si je ne me trompe pas, à côté de l'hôtel.
Non, alors celui-là, il est avant.
Celui-là, il est avant.
Celui-là, il est avant, il est à côté de la centrale. Enfin, si du moins, on parle bien du même. Oui. Il y a un petit bâtiment prismatique à côté de la centrale, avec des façades pleines et en pente, qui est tout petit, qui fait 25 mètres par 25, et qui est un central téléphonique.
Est-ce que vous avez l'impression qu'on a décrit à peu près tout ce qui est construit avant d'arriver au point central ?
Oui, si vous voulez. Enfin, je crois qu'on a décrit les masses principales, puisque finalement, quand on arrive vers ce point central... D'abord, je crois qu'il est important de dire qu'effectivement, on n'y va pas tout droit, mais qu'on prend un trajet assez contourné, si vous voulez, qu'on l'a tantôt en face, tantôt sur le côté, et qu'au moment d'y rentrer, il disparaît. Là, la route plonge et il disparaît, si vous voulez. On en a, pendant très longtemps, que des vues lointaines, et puis d'un seul coup, il disparaît, on passe sous un pont, et là, on le retrouve à la verticale, cette espèce de chose qui était très horizontale.
Alors, on retrouve à la verticale cette tour qui ressemble un peu à une forteresse. Et alors, la semaine prochaine, nous allons entrer dans cette forteresse et voir comment elle s'articule et quelles sont ses fonctions exactes. Bon, est-ce que vous avez voulu cette forteresse tout de même ?
Alors, si vous voulez, d'abord vous avez parlé de tour. Je ne dirais pas que c'est une tour. Après tout, j'aime mieux votre deuxième thème de forteresse parce que ça, c'est déjà l'idée de quelque chose de plus plat et de plus dense, si vous voulez.
Oui.
Hein ? C'est un bâtiment plat, il a 200 mètres de diamètre, il a au-dessus du sol quelque chose comme 40 mètres, donc c'est quand même... Les gens l'appellent le camembert des fois, mais enfin, c'est déjà moins gentil, enfin moins poétique. Bon, enfin, si vous voulez, c'est un bâtiment bas. Forteresse, si vous voulez, me choque moins, je suis plus prêt à vous suivre sur ce mot. Simplement, si vous voulez, je corrigerai par deux ou trois images, si vous voulez. Moi, je dirais davantage peut-être ouvrage d'art. Il me semble que...
Ouvrage d'art, et alors là, vous vous rappelez que vous êtes également ingénieur.
Oui, oui. Oui, si on veut, oui. Mais je veux dire que, à l'extérieur de ce bâtiment, alors je dis là nos intentions, si vous voulez. Dans nos intentions, l'extérieur de ce bâtiment, il devait exprimer finalement ce qui s'y passait, c'est-à-dire la voiture. Cette gare est conçue comme un échangeur entre un trafic routier, fait par des voitures, et... Plus tard le train, mais le train pénétrera autrement. Toutes ces circulations ne sont faites que pour les voitures et, d'un autre côté, l'avion.
Vous venez d'entendre la première partie de l'émission Présence des Arts avec Michel Marek et Paul Andreu, invités à parler de l'aéroport de Roissy le 9 février 1974 sur France Culture, quelques semaines avant son inauguration. Tout de suite, deuxième partie.
Nous avons... avec nous, Michel Marek et Paul Andreu, qui tous les deux ont travaillé sur Roissy. La semaine dernière, nous avons expliqué ce qu'était le site de Roissy, cet aéroport qui est un échangeur où les passagers qui arrivent en voiture quittent leur voiture pour prendre le train ou bien quittent l'avion pour prendre leur voiture. Cet aéroport a des allures de forteresse, on l'a dit la dernière fois, une forteresse qui serait entourée par 7 satellites. Alors, dans cette forteresse, il y a d'une part le fait que les gens puissent déposer leurs bagages.
C'était un des points du programme, qu'effectivement on donne une facilité un peu nouvelle aux gens qui viennent en voiture et sont seuls. Et finalement, en général, vont dans des parkings et trimballent leur valise pendant un très long parcours entre la voiture et les banques d'enregistrement. On a voulu que, et ça ne représente qu'une proportion relativement faible de l'ensemble du trafic, mais on a voulu que ces gens-là puissent se débarrasser immédiatement de leurs bagages, se rendre au parking et redescendre dans la gare les mains libres.
Michel Marek, vous avez également travaillé à la programmation de Roissy. Cette pensée du passager qui arrive en voiture, ça faisait partie du programme.
Certainement. Je dois vous dire que lorsque les travaux de l'aéroport ont commencé en 69 et dans les années qui ont suivi, jusqu'à ce que l'aérogare elle-même commence, les gens qui se trouvaient sur place, qu'ils appartiennent aux entreprises ou qu'ils appartiennent à Aéroports de Paris, aucun d'entre eux n'avait une idée vraiment très claire de ce que serait le trajet du passager, ni de ce que serait vraiment la forme de l'aérogare, bien sûr. Ils avaient vu les plans principaux, mais ne s'étaient pas beaucoup attardés sur les formes, les couleurs et les maquettes.
Alors, on arrive en voiture, donc. On dépose ses bagages à une espèce de guichet. Et ensuite, on continue de monter. Il paraît que dans cet aérogare, on peut toujours monter, on ne peut jamais descendre. Expliquez-moi pourquoi.
Non, en fait, si vous voulez, on peut descendre du parking. Quand on a mis sa voiture là-haut, on peut en sortir. Dieu soit loué, on n'a pas oublié l'escalier. Mais c'est le trajet à l'intérieur, le trajet des passagers à l'intérieur.
Oui.
C'est-à-dire une fois qu'ils ont déposé leurs bagages et qu'ils sont redescendus à l'étage bas de trafic, le trajet est toujours ascendant.
Oui, alors il faut peut-être expliquer qu'il y a 4 niveaux. Alors tout en haut du bâtiment, c'est le parking où on dépose sa voiture. Et alors je dois dire que comme impression, c'est extraordinaire parce qu'on a à la fois l'impression de temple égyptien et d'un univers comme ça de science-fiction, surtout avec les petites lumières rouges qui sont destinées aux avions. Et puis alors, on descend d'un étage. Alors là, on est au 4e niveau qui correspond à quoi ?
Il faut le prendre dans l'autre sens si on veut suivre le trajet.
Redescendons et remontons.
Si vous voulez. Excluons une bonne fois pour toutes la pile d'assiettes qui est sur le dessus,
oui.
Les 4 étages de parking, bon, il y a 4000 places là, desservies par des ascenseurs qui communiquent avec. Alors, 3 autres étages qui sont les étages de trafic.
Oui.
Je ne parlerai pas là tout de suite, si vous voulez, des étages qui se trouvent entre le parking et ces étages de trafic, qui est un étage technique et un étage de bureau, et des étages qui sont dessous, qui sont les étages de tri de bagages et de commerce. Hein. Donc, si on s'en tient, si vous voulez, aux étages de trafic qui sont au nombre de 3, il y a au plus bas, un étage de départ, dans lequel se font les formalités d'enregistrement. Au-dessus, un étage partiel, qui est l'étage qu'on appelle étage de transfert, en fait, qui sur les ascenseurs sera appelé étage accès aux avions, puisque c'est à partir de cet étage que partent les galeries qui mènent vers les 7 satellites. À cet étage, si vous voulez, on trouve un certain nombre de facilités, on trouve les contrôles de douane et de police, hein, plus un certain nombre d'informations. Et puis au-dessus, on trouve l'étage d'arrivée dans lequel il y a la livraison des bagages, les contrôles de douane pour les bagages de soute et toutes les facilités à l'arrivée. Alors, quand on dit que le schéma, si vous voulez, est ascendant, en fait, il faudrait être plus complet et dire que, au fond, l'ensemble du bâtiment fonctionne un peu comme une pompe ou comme un cœur. J'aime mieux cela pour les connotations que cela peut amener. Les passagers, au départ, se rassemblent vers le centre, montent un niveau à travers un grand événement central, montent un niveau et se distribuent vers les 7 satellites. Et à l'arrivée, ils reviennent de ces satellites, se concentrent dans l'étage d'accès aux avions, dans l'étage transit, et montent à nouveau un étage et se dispersent vers la route d'arrivée après avoir pris leur bagage. Donc, si vous voulez, il y a ce double mouvement de concentration et de dilution après changement de niveau.
Qu'est-ce qu'un satellite ?
Le satellite, si vous voulez, il n'a qu'une fonction, c'est celle d'être une salle d'attente. Hein. C'est finalement organisé autour d'un petit hall central, des salles d'attente, extrêmement simple, puisque la division est faite simplement par un siège en zigzag qui définit différents espaces.
Oui, mais je crois qu'il y a aussi une autre utilité au satellite.
Alors, alors sur ce satellite se branchent les passerelles télescopiques qui elles-mêmes vont se brancher sur l'avion. Le passager a tout fait, il est arrivé au bout, il voit l'avion est à 20 mètres, il attend qu'on lui dise d'entrer assis, en voyant et les avions et l'extérieur. Et pour nous, son voyage a commencé.
Alors, il faut tout de même préciser que cette tour centrale est en béton. Pourquoi l'avez-vous voulu en béton ?
Plus au départ pour des questions éthiques que plastiques. Bon, il y avait des tas de raisons pour que ce soit du béton, des raisons d'ordre technique et économique. Le choix étant fait en grande partie pour ces raisons-là, on a voulu, si vous voulez, que ce béton reste apparent. Et qu'il reste apparent pour qu'il y ait aussi peu de distance entre le travail qui est fait et puis le résultat qui est vu. Enfin, je veux dire que des ingénieurs font des calculs. Ce qu'ils calculent, c'est du béton.
Oui.
Des ouvriers coulent du béton. Si ensuite, cet élément principal qui est de structure, qui est finalement un élément très important du bâtiment, si celui-là, on vient le camoufler, l'habiller, le maquiller...
On peut tricher dans les proportions.
On peut tricher dans les proportions, et surtout, si vous voulez... Tout ce travail qui a été fait n'est pas en définitive vu. Et ça me semblait, pour un bâtiment public comme celui-là, ça me semblait dommage.
En fait, vous avez voulu exprimer les structures.
Oui, mais si vous voulez moins exprimer les structures, ce qui pourrait paraître une position, comment dirais-je, d'architecture, une espèce de position, disons, à la Viollet-le-Duc, ou là, exprimant les structures parce que c'est l'essentiel du bâtiment. Je ne prétends pas, si vous voulez, que ça, la structure soit définitivement l'essentiel du bâtiment, mais qu'elle peut être, dans certains cas, l'essentiel du bâtiment, et que dans ce cas-là, il faut la montrer.
Bon, hein? Et vous avez tout de même supprimé volontairement pratiquement toute décoration. Il n'y a pas de décoration à Roissy, ou très peu.
Oui, si vous voulez, de décoration. Si on entend par décoration quelque chose qui se rajoute.
Oui.
Hein, quelque chose qui vient en plus. Il n'y en a effectivement pas.
C'était par souci d'économie ou bien c'était une volonté autre?
Surtout une volonté autre. Hein. Il se trouve que ça nous a bien aidé sur le plan économique. Hein. Mais à vrai dire, c'était plutôt le désir de simplifier les choses, le désir de donner aux passagers quelque chose de sûr, de palpable à la limite. Qu'il n'y ait pas de faux semblants et que d'une certaine manière, enfin, ce que je vais dire va peut-être vous étonner, mais que d'une certaine manière, cela soit rassurant parce que l'on voit les vraies choses, parce que l'on voit comment ça porte, comment ça fonctionne, comment ça marche.
Michel Marek, je crois que pour Roissy, on a fait beaucoup appel à la préfabrication.
On a recherché la préfabrication, en particulier pour arriver à faire un béton de qualité. Ne pas recouvrir les bétons par des plaquages, des cloisons superficielles, c'est quelque chose de très difficile si on veut que ces bétons soient bien pleins et des arêtes fines et finalement soient agréables à regarder. Nous avons voulu du béton brut mais non pas du béton grossier. D'où en particulier cette préfabrication qui permet, dans des usines soit situées sur place, c'est le cas de l'aérogare, soit situées dans la région parisienne pour des bâtiments plus petits, de surveiller de très près les moules, les mises en œuvre et d'obtenir un travail de qualité. Les autres éléments qui ont conduit au choix de la préfabrication sont des éléments propres aux entreprises qui ont fait les travaux. À partir du moment où une pièce, une poutre par exemple en béton, est faite un certain nombre de fois, ils ont intérêt, les entrepreneurs, économiquement, à la construire dans une usine plutôt que de la faire sur place.
Bon, et alors il y a, quand on arrive par la route, il y a une série de piliers assez impressionnants et on est encore bien plus impressionné quand on sait que chacun d'entre eux supporte 8000 tonnes et encore beaucoup, beaucoup plus impressionné quand on regarde et qu'on se rend compte qu'au milieu de ces piliers, il y a le jour en grande partie. Alors on se dit, ça repose sur quoi? 8000 tonnes reposent sur quoi? Paul André.
Non, en fait, si vous voulez, ce sont ce qu'on appelle dans le jargon technique des articulations. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une très grande couronne de 200 mètres de diamètre, de 20 mètres de large, qui est une couronne absolument monolithe, précontrainte de manière à ce qu'elle ne fissure pas et qu'elle soit bien effectivement monolithe. Et cette couronne est posée sur des piliers au nombre de 18, par l'intermédiaire d'articulations.
Et ces piliers sont construits en béton précontraint. Michel Marek, est-ce que vous pouvez nous expliquer aux auditeurs, quand même, en gros, et simplement, ce qu'est le béton précontraint dont ils entendent beaucoup parler en ce moment?
Vous voulez fabriquer une poutre en béton. Vous pouvez tout simplement mettre dans un moule du béton, comme lorsque vous faites un gâteau et que vous y mettez de la pâte. Puis, lorsque le béton a durci, vous enlevez votre moule. Et si vous n'avez pas mis de tige d'acier dans ce béton, dans le sens de la longueur, vous apercevez assez vite, et c'est une question de bon sens, que votre poutre ne supportera pas des charges très lourdes. Depuis 100 ans, on met dans de telles poutres en béton de l'acier posé dans le fond du moule avant qu'on vienne couler le béton, et ça donne ce qu'on appelle le béton armé. On obtient des poutres qui résistent bien aux charges appliquées. Puis, des ingénieurs, et en particulier Freycinet, ont imaginé que si le gâteau de béton pouvait être resserré à ses extrémités, c'est-à-dire comprimé à ses extrémités, de façon à ce que le béton soit très serré, il pourrait résister mieux aux charges qu'on lui appliquerait. Et il a réussi à imaginer comment on pourrait serrer ce béton. Au lieu de mettre une barre d'acier au fond du moule, il a mis un tube d'acier qui allait tout le long de la poutre. Dans ce tube, il a mis un câble. Il a accroché ce câble à l'extérieur à une extrémité de la poutre Et sur l'autre extrémité, il a tiré très fort. Il a ainsi comprimé son béton. C'est ça, le béton précontraint.
C'est ça, le béton. Mmh. Merci beaucoup.
Ben, si vous voulez, pour faire image, hein, si quand vous allez acheter des cigarettes, vous voyez souvent le type sortir 10 paquets de tabac à l'horizontale en même temps, en pressant de ses deux mains sur les deux paquets extrêmes. Hein, eh bien, il a fait une poutre précontrainte. Hein.
Bien. On a combien de piliers comme ça, en béton précontraint?
Ah, il y en a 18 comme ça.
Il y en a 18 comme ça, qui sont alignés le long de la route qui mène jusqu'au parking.
Oui, tout le long de la route du niveau arrivé, hein, qui est connecté d'une part par deux rampes avec la ville et qui mène également au niveau parking.
Qui mène au niveau parking. Bon, alors, nous sommes donc arrivés au parking, on redescend et alors on va prendre l'avion et les avions sont disposés tout autour du bâtiment, tout autour des 7 satellites. Et il y a dans la partie centrale, c'est assez extraordinaire quand on regarde ça, puisqu'il y a des espèces de couloirs de circulation avec des tapis roulants qui s'entrecroisent d'un niveau à l'autre. Et en dessous ces tapis roulants, il y a un bassin avec des jets d'eau et tout ça sera éclairé, je crois. Oui. Quand on regarde ça d'un des niveaux, on se dit c'est vraiment un univers à la James Bond. Est-ce que c'est ce que vous avez voulu ?
On n'a pas voulu la référence à James Bond, honnêtement. Disons qu'on a voulu que ça soit un univers un peu abstrait. On a voulu que la gare, la partie centrale de la gare, soit très, très refermée. Si vous l'avez appelée forteresse, bon...
Vous êtes d'accord sans être d'accord?
Oui, enfin, avec des nuances, si vous voulez, enfin, des belles forteresses à la Vauban, disons.
Mais bien sûr, il y a une grande architecture militaire.
Non, mais enfin, on a voulu que, bon... ce bâtiment soit très accroché à la Terre, soit la Terre d'un certain côté, et au contraire, le satellite, lui, soit beaucoup plus ouvert sur les avions. Et que finalement, si vous voulez, tout le cheminement qu'on a essayé de traiter de manière dynamique, c'est-à-dire en faisant varier et les largeurs et les hauteurs, selon ce que les gens faisaient, sans qu'ils étaient arrêtés ou qu'ils étaient en mouvement. On a voulu, si vous voulez, que l'ensemble de cette architecture de mouvement trouve dans le centre du grand rond du corps central le maximum de son impression et comme un espèce de résumé. C'est un espèce de grand cratère ou de puits qui fait 30 mètres de large, c'est-à-dire nettement plus large que la plupart des rues parisiennes, qui est à peu près aussi haut que large, et qui est traversé en diagonale par 6 tapis roulants qui sont eux-mêmes des petites coques indépendantes avec leur couverture, des tubes de verre qui passent à travers le volume. Et en dessous, on a l'eau. Et si vous voulez, d'une certaine manière, c'est un peu le voyage. Alors qu'on va partir et qu'on n'est pas encore parti, c'est un peu déjà le voyage puisqu'on navigue dans les airs. Et c'est Icare puisque l'eau est en dessous. Mais on ne tombe pas.
Vous venez d'entendre Michel Marek et Paul Andreux invités à parler de l'aéroport de Roissy quelques semaines avant son inauguration dans l'émission Présence des Arts. Première diffusion les 9 et 16 février 1974 sur France Culture.